الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فنواصل بعون الله تبارك وتعالى دروسنا في الشرح منهج السالكين والتوضيح الفقه في الدين لشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى على شرح الشيخ سليمان بن عبد الله القصيري حفظه الله تعالى. وما زلنا في كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. فقول المؤلف رحمه الله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم، وهذا الحديث عن ابن عباس وأصله في البخاري ومسلم، عنه بلفظ ومسلم عنه بلفظ ولكن اليمين على المدعى عليه. طيب، وشرحنا هذا. نعم، لا 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 لا، توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ويجب على الإمام نصب من يحصل به الكفاية ممن له معرفة بالقضاء، معرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس، أي فيضع الشيء في موضعه فلا يجعل حد القف مكان حد الخمر وهكذا. طيب، donc on s'est arrêté la fois dernière toujours dans le chapitre concernant tout ce qui concerne les procédures judiciaires, les jugements, يعني au sein des tribunaux, les plaintes, les preuves ainsi que les différentes formes de témoignages et d'attestations. Donc il avait dit l'auteur ici rahimahullah ta'ala, il est obligatoire pour le dirigeant ou le gouverneur musulman de mettre en place yani, des gens pour qu'ils accomplissent et exécutent le jugement lors des litiges ou des procédures judiciaires donc qu'il peut y avoir entre les différentes personnes, de mettre en place donc ces juges, assez de juges pour que cela soit suffisant pour la communauté. Donc ces juges-là qui doivent avoir une connaissance de Al-Qadha, bien sûr, du fait de juger entre les gens, par le biais, bien sûr, des règles religieuses légiférées par Allah tabarak wa ta'ala, et comment les appliquer yani, conformément à la situation de chaque personne, et des jugements, et des situations, et des affaires. Taïeb. Donc ces juges-là doivent être compétents bien sûr en la matière et doivent avoir cette connaissance, ce savoir qui leur permettra de mettre les choses à leur place et ainsi par exemple de ne pas faire appliquer la sentence de la diffamation à la place de la sentence de celui qui a bu de l'alcool par exemple et ainsi de suite. ثم قال المؤلف رحمه الله وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي. طيب، وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل، فمثلا يقدم الأكثر علما على الأقل علما، والأكثر ورعا على الأقل ورعا، والأكثر استقامة على الأقل منه، والمبصر على فاقد البصر ونحو ذلك. طيب، وذكر الفقهاء أن الصفات المعتبرة في القاضي عشرة، وهي أن يكون مسلما بالغا عاقلا عدلا حرا سميعا بصيرا متكلما ذكرا مجتهدا. وعلى الإمام أن يختار من تحققت فيه هذه الصفات بكمالها ثم من تحقق فيه أكثرها وهكذا. Donc il poursuit l'auteur ici رحمه الله تعالى en disant: le gouverneur musulman se doit de mettre en place des juges. Et il doit prendre en compte pour choisir donc ces juges certaines qualités et certains attributs qu'on va mentionner, inshallah ta'ala. Taïeb, des attributs, des qualificatifs qui sont pris en compte pour justement pouvoir occuper cette fonction qui est celle de juge. Donc, il dit ici l'auteur, le Cheikh Suleyman, Afwan, Cheikh Suleyman, Fidahullah Ta'ala, il dit que les juristes ont évoqué et ont mentionné donc ces attributs qui sont pris en compte et qui doivent être présentes dans Al-Qadi, le juge, et qui sont au nombre de 10. Donc ces qualités-là sont au nombre de 10. Ils disent, premièrement, il faut qu'il soit musulman. Deuxièmement, pubère. Troisièmement, doué de raison. Quatrièmement, adl. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit quelqu'un de fiable et de droit. Cinquièmement, hur. Quelqu'un de libre et non esclave. Sixièmement, sami'. Il y a quelqu'un qui n'est pas sourd, qui est audient. Basir, donc qui est voyant. Mutakallim, qui n'est pas muet, il y a qui a cette capacité, donc, de parler. Dhakar, un homme, et mujtahid, yani quelqu'un qui a la capacité de faire un effort de déduction à travers des textes religieux, le Coran ou la Sunna. Donc, ces 10 qualités-là, ce sont celles qui doivent être prises en compte pour qu'on puisse choisir et mettre en place une personne afin qu'elle occupe cette fonction-là de juge. Donc, le gouverneur se doit de choisir celui chez qui on a ces 10 qualités-là de manière complète. Et ensuite, si il n'y a personne qui posséderait ces 10 qualités-là, eh bien, on prendra celui qui en occupera ou qui en possédera plutôt le plus. D'accord? Donc, le juge, ou plutôt le gouverneur, pardon, devra choisir un juge qui possède le plus parmi ses qualités. D'accord? Celui qui a le plus de science, il fera prévaloir celui qui a le plus de connaissances, celui qui a le plus de piété, celui qui a le plus de droiture, et qui est connu pour sa droiture, bien sûr. Il fera prévaloir celui qui voit à celui qui ne voit pas, hein, à l'aveugle ou au malvoyant, etc., etc. D'accord? Est-ce que c'est bon? طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه أي أنه إذا لم يوجد إلا واحد كفو ولم يوجد غيره لازمه الامتثال إلى الوالي العام إذا كلف بشرط أن لا يشغله عن واجب كحق أهله عليه وما أشبه ذلك. طيب. Donc, il dit ici l'auteur, rahimahullah ta'ala, cette mission de juge incombera donc à celui qui est compétent en la matière. Et s'il n'y a personne à part lui qui est capable de le faire. Donc s'il y a une personne et que c'est la seule qui est compétente en la matière au niveau du jugement, eh bien il lui incombera à elle de le faire. Voyez? Sauf si elle a d'autres fonctions, d'autres devoirs qui lui incombent. Dans ce cas-là, il ne lui sera plus obligatoire d'occuper cette fonction-là. D'accord? Il pourra la refuser. C'est-à-dire, s'il n'y a qu'une seule personne capable d'occuper ce poste-là de juge, et qu'à part elle, il n'y a personne, eh bien, elle devra obligatoirement occuper cette place-là que va lui conférer le gouverneur musulman, s'il lui donne bien sûr l'ordre de le faire. À condition qu'elle n'a pas une autre obligation, un autre devoir qui lui incombe et qui donc fait qu'elle ne pourra pas occuper les deux devoirs en même temps. Comme il y en a le fait remplir ses obligations par rapport à sa famille. D'accord? Si le fait que elle a trop d'obligations, trop de devoirs envers sa famille, et que par conséquent, elle ne pourra pas occuper les deux fonctions, dans ce cas-là, elle pourra donc refuser, taïeb, cette mission, cette fonction-là de juge. Non. Autrement, non. Taïeb. Non. أن لا يشغله عما هو أهم منه كطلب العلم أو القيام بحق أهله أو الدعوة في المناطق النائية ونحو ذلك. طيب. Et autre exemple, qu'elle ne soit pas occupée par autre chose telle que l'étude de la science religieuse ou la prédication dans certaines contrées éloignées et autre que cela. Non. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه بهذا اللفظ البيحقي عن ابن عباس وأصله في البخاري ومسلم عنه بلفظ ولكن اليمين على المدعى عليه. Puis il poursuit l'auteur ici رحمه الله et il dit que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit la preuve incombe au plaignant. La preuve, elle incombe au plaignant, d'accord, à celui qui réclame son haq, son droit, sur quelqu'un. La preuve, elle lui incombe à lui. Et elle yamin, il y a le serment, il incombe à celui qui nie, qui renie le fait que il doit quelque chose à quelqu'un. D'accord? Donc, elle bayina, la preuve, elle incombe à celui qui prétend qu'on lui doit quelque chose, on l'appelle Al-Mudda'i, et Al-Yamin, le serment, lui, il incombera à celui qui va nier, à celui qui nie qu'il doit quelque chose. Taïm. Donc ce hadith, rapporté par l'imam Al-Bayhaqi, son ibn Abbas, et on trouve son origine dans les recueils de Bukhari et Muslim, dont la version est la suivante, mais le serment, lui, incombe à Al-Mudda'a alayh. Al-Mudda'a alayh, c'est celui qui sera accusé de quelque chose. C'est celui qui sera accusé de quelque chose ou celui dont on prétend qu'il doit quelque chose à quelqu'un d'autre. D'accord? On l'appelle Al-Mudda'a alayh. Al-Mudda'i, c'est le plaignant, celui qui réclame son haq, le plaignant. Alors que Al-Mudda'a alayh, c'est l'autre partie, c'est l'accusé. D'accord? Non. وقال صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم سلمة. Puis il rapporte un autre hadith dans lequel il dit le prophète صلى الله عليه وسلم je ne juge qu'en fonction de ce que j'entends. Je ne juge qu'en fonction de ce que j'entends. Et n'est qu'en fonction des preuves. D'accord? Donc le hadith rapporté par البخاري ومسلم également selon أم سلمة. ثم قال فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة. من ادعى مالا ونحوه فعليه البينة. فمن ادعى على خصمه أخذه لماله إما ببيع أو شراء أو عارية أو قرض أو إجارة وما شابه ذلك أو ادعى أخذه لعقار كبيوت وأراض ونحوها أو أخذه لحيوان أو لأي تملك يملكه فإنه لا يعطى بدعائه بل لا بد أن يطالب أو يطالب بالبينة التي تبين صدق دعواه. Puis pour ce l'auteur, en disant, celui qui réclame et qui prétend qu'on détient un bien qui lui appartient. Un bien qui lui appartient, et autre que cela, il se doit de ramener yani une beyina. Une beyina, une preuve. D'accord? Donc, celui qui prétend que, et qui accuse quelqu'un d'avoir pris son bien, que ce soit qu'on lui doit quelque chose à la suite d'une vente ou d'un achat, ou d'un prêt ou d'un emprunt ou d'une location et autre que cela, ou qui prétend que quelqu'un lui a pris un bien immobilier tel que des maisons, des terres, etc., ou qui prétend qu'on lui a pris un animal qui lui appartenait, ou toute chose, toute propriété qu'il pourrait posséder, eh bien, on ne va pas le suivre dans ses accusations et dans sa plainte uniquement par une simple prétention ou une simple allégation. Non, on va lui demander, on va lui demander une preuve. Une preuve qui va, ou un acte, ou une preuve, quelque chose qui va prouver ou qui va mettre en évidence la véracité de sa plainte et donc du plaignant. D'accord? Taïeb. إما أولا إما شاهدان عدلان إما شاهدان عدلان donc première bayyina, première preuve ou première forme de preuve qui peut venir accréditer sa plainte, c'est quoi? Le fait qu'il ramène deux témoins. Deux témoins intègres. Deux témoins intègres connus pour leur droiture. Hein? Il y a leur droiture et le fait que ce sont des gens qui sont dans la crainte d'Allah, tabarak wa ta'ala, et qui ne sont pas connus pour étant des gens qui font des péchés majeurs, notamment, ou qui sont plongés dans des péchés mineurs. D'accord? De manière récurrente. Ça, c'est la première bayina que peut rapporter El-Mudda'i, le plaignant. Il vient avec lui, avec deux témoins, qui vont témoigner et attester de sa véracité dans l'affaire, bien sûr, en question. D'accord? Thaniyan, aw rajulun wamra'atan. Aw rajulun wamra'atan. Deuxième forme de bayyina qu'il peut ramener, on a dit dans la première, donc c'était deux hommes, d'accord? Le témoignage de deux hommes. Deuxième forme, le témoignage de un homme et de deux femmes. Un homme et deux femmes. Taïeb. Ça, c'est la deuxième possibilité. Est-ce que c'est bon? Warajaha كثير من السلف رحمهم الله أن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل في كل شيء حتى في القصاص والنكاح والطلاق والنسب والحدود وهذا القول هو الذي يقتضيه الدليل والتعليل. D'accord? Beaucoup parmi les salaf, parmi les prédécesseurs, رحمهم الله, ils disent que l'attestation de deux femmes est équivalente, pardon, à celle d'un homme. Et cela en toute chose. Dans toutes les affaires, beaucoup parmi les salafs disent que le témoignage de deux femmes est équivalent à celui d'un homme. Que ce soit ici, dans les affaires judiciaires ou dans tout ce qui concerne le qisas, yani le talion, le mariage également, le divorce. Le lien de parenté d'un enfant ou les peines légales, etc., eh bien, l'attestation de deux femmes sera acceptée et comptera pour l'attestation d'un homme. D'accord? Ça, c'est l'avis ou la parole qui est déduit des preuves et du raisonnement. Naam. C'est clair ou pas? Thalithan, أو رجل ويمين مدعي لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. Et troisième type de bayyina que peut ramener le plaignant, c'est le témoignage d'un homme avec, accompagné d'un serment de sa part. Un serment de sa part, yani qu'il jure sur Allah tabarak wa ta'ala de sa véracité dans cette affaire-là. D'accord? Un homme accompagné d'un serment. Et cela, conformément à la parole d'Allah tabarak wa ta'ala de la sourate Al-Baqarah, dans le sens du verset, Allah tabarak wa ta'ala, il dit: Demandez le témoignage de deux hommes d'entre vous, ou à défaut de deux hommes, d'un homme et de deux femmes que vous agréez comme témoins. Que vous agréez comme témoin. D'accord? Taïe. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث ابن عباس ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد puis dit l'auteur رحمه الله تعالى que le prophète صلى الله عليه وسلم a jugé a émis un jugement ou des jugements à l'aide d'un témoin accompagné d'un serment, accompagné d'un serment de la part du plaignant. Et ce hadith, il est authentique, il est rapporté par l'imam muslim, selon Ibn Abbas, dont la version est la suivante, que le messager d'Allah alayhi a jugé à l'aide d'un serment et d'un témoin. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc on rappelle les trois formes de Beyyina. La première, le témoignage de deux hommes, intègres, fiables, droits. La deuxième, c'est quoi? Le témoignage d'un homme et de deux femmes. D'accord? La troisième, le témoignage d'un homme et... Non. Et le serment. Et le fait de prêter serment, de jurer sur Allah tabarak wa ta'ala. D'accord? Dans cette affaire-là. Est-ce que c'est bon? C'est bon ou pas? Bah oui. Il y en a vu les preuves, alhamdoulilah. فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبريء. أي فإذا لم توجد بينة من المدعي فإن المدعى عليه يحلف بنفي ما ادعاه المدعي ويبرأ. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه أخرجه البخاري ومسلم. Puis dit l'auteur rahimahullah, si le plaignant n'a pas de beyina, n'a ni deux témoins hommes, ni un témoin et deux témoins femmes, ni un témoin et ni un serment, ni une jure sur Allah tabarak wa ta'ala, eh bien, ça, le serment incombera à l'accusé. Le serment incombera à l'accusé ou contre qui la plainte a été déposée. Donc il devra prêter serment, jurer sur Allah tabaraka wa ta'ala, en reniant ce pourquoi ou ce dont il est accusé. Donc s'il jure dans ce cas-là qu'il est innocent, il sera innocenté et acquitté. D'accord? Il sera innocenté et acquitté. C'est là en vertu du hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui a dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, si on donnait tout aux gens, yani, par rapport à leurs plaintes et à ce qu'ils prétendent, les gens prétendraient la mort des hommes ainsi que leurs biens. Yani, les gens prétendraient, à tort et à travers, que certains doivent être exécutés ou que certains leur ont pris des biens qui leur appartiennent, etc., etc., sans preuve. D'accord? C'est pour ça qu'il dit, la kinel yamin, donc le serment incombe à celui qui est accusé. Donc celui qui est accusé, pour s'innocenter, il pourra jurer sur Allah tabaraka wa ta'ala dans ce cas-là, dans le cas, bien sûr, où le plaignant n'a aucune preuve, n'a aucune bayyina. Donc le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. طيب فإن نكل عن الحالف قضي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به أي فإن أبى المدعى عليه أن يحلف قضي عليه بالنكول والنكول هو الامتناع فيقول القاضي المدعى عليه إن حلفت خليت سبيلك وإلا تحلف قضيت عليك بالنكول فإن لم يحلف حكم لصالح المدعي لما روى مالك أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بالبراءة فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي فاختصم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى عثمان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به الداء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد وقال البيهقي هو أصح ما في هذا الباب. Puis dit l'auteur, rahimahullah, si maintenant l'accusé, il refuse à son tour, ou il refuse tout court, de jurer, de prêter serment, eh bien, le juge appliquera le jugement sur lui de an-nukul, yani le refus de prêter serment. An-nukul, c'est le fait de refuser, le refus de prêter serment sur Allah tabarak wa ta'ala. D'accord ? Donc, si celui qui est accusé refuse de prêter serment et de jurer de son innocence, sur son innocence, eh bien, on le jugera comme ayant commis un nukul, un refus de jurer. Donc, un nukul, c'est ça, c'est le fait de refuser, d'accord, de prêter serment. Et le juge, donc, pourra lui dire que si il prête serment, il sera acquitté. Par contre, s'il ne prête pas serment, eh bien, je jugerai sur toi comme ayant refusé un nukul. Et donc, s'il ne jure pas, le juge déclarera, ou plutôt émettra un jugement en faveur du plaignant. Donc, s'il refuse de jurer, on dira qu'il a fait preuve de nukul, de refus de serment, et donc le juge pourra prononcer un jugement en faveur du plaignant. C'est bon? C'est bon ou pas?
Ouais, mais c'est genre...
Ben, c'est-à-dire que le plaignant aura droit à ce qu'il demande. S'il accuse la personne comme quoi elle lui doit une certaine somme qu'elle lui a prêtée, par exemple, d'accord? Et que celui qui est accusé d'être endetté, il refuse de jurer, d'accord? Comme quoi il lui ne doit rien du tout, par exemple. Eh bien, le juge pourra prononcer la sentence comme quoi il lui doit la somme d'argent qui est réclamée par le plaignant. C'est bon? Naam. Et cela en vertu de ce qu'a rapporté l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, dans cette qissa, cette histoire, comme quoi Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, avait vendu un esclave qui lui appartenait avec la condition que cet esclave-là était en bonne santé, n'avait aucun défaut. Et un physique, aucune maladie. D'accord? Donc il lui a vendu cet esclave-là. C'est bon? Et celui donc, qui avait acheté cet esclave à Ibn Omar, il s'est plaint en disant que l'esclave qu'il lui a acheté n'était pas et un complètement en bonne santé. Au contraire, il avait une maladie que Ibn Omar n'avait pas mentionné lors du contrat de vente. Et donc les deux sont retrouvés en conflit et sont partis voir Uthman ibn Affan radiallahu anhu pour qu'il juge dans cette affaire-là. D'accord? Donc Uthman ibn Affan, il a donc demandé et ordonné à Abdullah ibn Omar de jurer, de prêter serment, comme quoi il a bien vendu cet esclave-là. Et que lorsqu'il l'a vendu, il ne possédait aucune maladie dont il avait connaissance. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait Abdullah? Il a refusé. Il a refusé de jurer, de prêter serment. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a dû reprendre son esclave et donc de rembourser l'acheteur. D'accord? Alhamdulillah. Donc, le hadith rapporté par l'imam al-Bayhaqi qui a dit que c'est la chose la plus authentique qui a été rapporté à Annie concernant ce chapitre-là. Wadeh, c'est clair? Taïe. Alhamdulillah. Naktafi bihadha al-qadr, incha'Allah. Wa l'ilma inda Allah. Wa akhiru da'wana an ilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala ali wa sahabi ajma'in. Wa sallam al-slima. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.